Merci d'écouter Inter, 19h28.
France Inter. Le
18-20 ce soir sur les affaires judiciaires dans la campagne électorale, c'était déjà totalement inédit jusque-là. Mais la journée d'hier a marqué une étape supplémentaire avec pour la droite de nouvelles informations du Canard enchaîné sur François Fillon. Puis en début de soirée, un réquisitoire supplétif dans l'affaire des emplois possiblement fictifs pour escroquerie aggravée, faux et usage de faux. Pour la gauche, cerise sur le gâteau, la démission du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Il avait employé ses filles lycéennes puis étudiantes à l'Assemblée nationale. Ces événements, car ce sont au sens strict des événements, ont fait la une de l'actualité hier et écrasé tout le reste. Alors question simple, amis auditeurs, que pensez-vous de ces affaires, d'une part, de leur traitement médiatique, d'autre part? La rédaction d'Inter est heureuse de dialoguer avec vous jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue Anne-Marie, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir France Inter.
Nous vous écoutons Anne-Marie.
Voilà, mais écoutez, je voudrais dire donc en ce moment, on entend vraiment beaucoup l'expression pollution des campagnes, de la campagne présidentielle. Et moi j'avais envie de partager avec vous mon ressenti et je me demande plutôt si on ne pourrait pas, si on n'est pas plutôt entré dans une ère de dépollution de la démocratie. Et si on ne doit pas plutôt se féliciter de cette prise de conscience et de pouvoir ainsi être informé de ces pratiques archaïques qui polluent et qui entravent la démocratie. Je me demande donc si on peut pas effectivement, quelque part, se féliciter de cela et plutôt remercier les médias pour ce travail, parce qu'après tout, je crois que les médias, en nous éclairant tout ce qu'on appelle les affaires, ne font que nous montrer quelque chose qui existe. Mmh. Elles font leur métier, alors certains médias le font mieux que d'autres, mais je crois que leur métier, c'est de nous montrer ce qui ne va pas, de nous faire prendre conscience et de nous amener vers un changement qui peut être que plus de démocratie, plus de justice et plus de bienveillance. Et je me demande si tout ça, au contraire, n'est pas porteur d'espoir.
Une question, Anne-Marie, permettez-moi, juste avant de donner la parole à tout le monde ici en studio, comme citoyenne, dans le moment dans lequel on se trouve, on se dirige vers une élection, ça contribue à vous informer pour votre choix le jour de l'élection, ou ça vous détourne des urnes? Est-ce que ça a un effet sur l'électrice que vous êtes?
Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vrai que je me sens tout à fait citoyenne et je suis toujours intéressée par ces questions autour de la politique, mais je pense qu'au contraire, vous voyez, c'est pour ça que je réagis, parce qu'on entend pollution, est-ce que ça va pas détourner les gens des urnes? Moi, je pense qu'au contraire, que les gens iront aux urnes avec les yeux peut-être un petit peu plus ouverts.
Message reçu. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette question d'ouverture. Pour vous répondre ici, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Monsieur
bonsoir
le directeur de la rédaction de France Inter, Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le chef du service politique, Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir.
Madame la journaliste au service enquête justice, vous avez la parole.
Oui, moi je suis assez d'accord avec notre auditrice après cette phase de dépollution. Je ne sais pas combien de temps elle peut durer et si ça peut être durable. Mais en tout cas, il y a effectivement plus de médias qui font de l'investigation, des médias qui sont même dédiés aux enquêtes. Il y a aussi des institutions qui sont nées ces dernières années, comme la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, dont on avait peut-être un peu sous-estimé la puissance qu'elle prendrait, qui en fait a un vrai rôle d'alerte et qui pousse même, on l'a vu, parfois les élus à renoncer de même à certaines pratiques. Il y a le Parquet National Financier. Donc il y a tout ce contexte qui fait que, effectivement, c'est plus difficile de cacher les choses et puis que la justice s'en empare et qu'elle travaille beaucoup plus facilement qu'il y a 15 ou 20 ans. Et ça, je pense que les responsables politiques en ont sans doute pas pris vraiment la mesure.
Frédéric Mettezo.
Oui, ce que vient de dire Anne-Marie, c'est la réponse à trois arguments qu'on nous oppose souvent quand on fait des enquêtes ou des révélations ou qu'on répercute des informations. D'abord, on nous dit « Ah, mais vous vous intéressez à telle ou telle personne parce qu'elle est candidate à la présidentielle ». Ben oui, effectivement, un candidat à la présidentielle est virtuellement président de la 5e puissance du monde, c'est pas n'importe qui. Deuxième chose, on nous dit, on entend dire « Comme par hasard, ça tombe juste avant l'élection ». Il vaut mieux que ça tombe avant qu'après, parce que si jamais la personne élue est suspectée de tel ou tel fait délictueux, elle est protégée par une immunité présidentielle. On se souvient, ça a duré 12 ans pour Jacques Chirac et 5 ans pour Nicolas Sarkozy. Dernière chose, tiens, comme par hasard, ça tombe en pleine période électorale. Je vous rappelle qu'on est en France et qu'en France, on est tout le temps en campagne parce qu'il y a des municipales, des législatives, des régionales, des départementales, des sénatoriales, des européennes, des primaires et une présidentielle. Donc, puisqu'on est tout le temps en campagne électorale,
ça tombe nécessairement
pendant une campagne électorale.
Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter.
Je crois que ce ne sont pas tant les médias qui ont changé que la société et la justice. C'est-à-dire que les médias, il y en a toujours eu qui ont enquêté. Rappelons-nous les campagnes précédentes. Enfin, je ne sais pas, les emplois fictifs de la ville de Paris, Clearstream, etc. Enfin, les médias enquêtent. Ben oui, ils essaient de porter la plume dans la plaie, selon la formule consacrée. Mais davantage, la société a plus besoin de transparence, je crois, aujourd'hui. Elle est plus exigeante vis-à-vis du mensonge ou du mensonge présumé. Et la justice, Sarah Guibaudot le disait, est probablement aujourd'hui plus libre, plus indépendante dans son travail.
Jean-Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, vous nous appelez de Bordeaux, soyez le bienvenu.
C'est ça. Donc voilà, je voulais remercier les médias, et particulièrement Le Canard Enchaîné, Mediapart et Le Quotidien d'avoir mis au jour ces affaires. Donc deux journaux, une radio, j'aimerais qu'une très belle radio que j'écoute depuis 35 ans puisse prendre la suite. Voilà, et à mon avis, donc ce sujet ne vient pas polluer le débat, puisque de toute façon, il n'y a pas de débat de fond, et que le sujet de fond qui apparaît là, c'est l'intégrité des hommes politiques. Parce que les seuls débats qu'on a eu il y a deux jours là, c'est les idées pré-mâchées, pré-digérées de Madame Le Pen, les idées novatrices de quelques candidats inspirés de Madame Thatcher. Donc ça fait pas avancer les choses. L'intégrité des hommes politiques est vraiment le débat de fond de cette présidentielle. Et je pense qu'au final, on pourra voter pour le seul candidat qui n'est pas mis en examen. Voilà.
Bah écoutez, merci Jean-Pierre pour cette intervention sur l'investigation à la radio. Jean-Pierre disait j'aimerais qu'une de mes radios préférées que j'écoute depuis 35 ans s'y mette un point sur le sujet. Jean-Marc Four.
C'est France Inter, il parle de France
Mais
Inter.
Mais oui, je crois
d'accord.
Bien.
Bon, merci Jean-Pierre de continuer à écouter Inter. Non, plus sérieusement, cela dit, la question soulevée est pertinente parce que la tradition de l'investigation en France est plus une tradition de presse écrite globalement qu'une tradition d'audiovisuel. Je pense que les choses évoluent. Aussi bien à la télévision qu'à la radio, on voit le rôle joué par un magazine comme Cache Investigation à la télévision. Et aujourd'hui, il y a une volonté en radio, je parle en tout cas pour Radio France, de faire beaucoup plus d'investigations. Il y a une cellule qui a été montée au niveau de Radio France. Il faut simplement avoir à l'esprit que pour faire de l'enquête et de l'investigation, c'est un travail de très longue haleine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide on va se mettre à en faire, il faut sans doute plusieurs années en réalité pour avoir vraiment un dispositif efficace. Mais soyez absolument convaincus qu'on est dans cette tendance-là.
Frédéric Mettezo.
Il faut effectivement du temps, il faut passer beaucoup de temps, il y a des bonnes pistes et des moins bonnes pistes, donc si on veut être très sérieux, il faut prendre le temps de recouper, donc il y a cette contrainte de temps, et puis il y a cette contrainte de place. Prenons une longue enquête de Mediapart, par exemple, comme vient de citer Jean-Pierre. Une longue enquête de Mediapart, en nombre de signes, ça ferait des plages très très longues à la radio. Or, nous avons en radio des phases longues. Une phase longue en matinale de France Inter, c'est 4-5 minutes. Rapporté au nombre de signes sur Mediapart, c'est rien du tout. Donc, cette place, elle est, c'est une donnée, c'est un facteur important pour nous en radio. Et puis, il y a les formats. Et puis, il y a également autre chose qui est beaucoup plus facile en presse écrite ou beaucoup plus facile à mettre en scène à la télévision. Vous savez, quand par exemple, on a des propos qui sont écrits sur l'écran, ce qu'on appelle le off, les propos rapportés, c'est aussi plus difficile, on le voit aussi d'ailleurs en politique, le off, c'est plus difficile à rapporter dans certains papiers radio parce qu'on peut perdre le fil. Donc, on a aussi une contrainte de format qui ne nous empêche pas d'enquêter, mais qui empêche de donner toute la place qu'on voudrait à ces enquêtes.
Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir sur votre antenne, monsieur.
Je vous en prie.
Bonsoir à tout le monde. Ma question est la suivante. J'ai le sentiment que cette émission supplémentaire, complémentaire, cette autre émission sur ce même sujet de la façon dont vous traitez l'information est un petit peu une nouvelle tentative de justification, d'explication de la façon dont vous traitez précisément cette information.
Expliquez-nous, Michel, je comprends pas bien.
Il me semble très clairement, et je ne suis pas seul à penser ça, loin de là, que vous, en fait, tout semble se, je vais être très direct,
allez-y.
Tout semble se passer comme si vous dérouliez un conducteur pour flinguer François Fillon. au profit de M. Macron. Voilà, c'est très clair. Les réseaux sociaux s'en émeuvent, je peux vous le dire. Et c'est grave ce qui se passe en ce moment. Personne ne comprend ce qui se passe, personne ne comprend pourquoi. Et j'écoute France Inter, j'écoute France Culture, j'écoute France Info. Mmh. Les trois radios, j'écoute. C'est systématique, non seulement sur le fond, mais sur la forme. Quand il n'y a pas de fait nouveau, sur la forme, sur la façon dont vous en parlez, tout nous laisse à penser, tout laisse à penser que vous flinguez Fillon. Voilà. Je vous le dis comme je le pense.
Vous faites bien, et c'est pour ça qu'on fait ce téléphone sonne ce soir. C'est précisément pour pouvoir avoir un dialogue franc et musclé, comme disent parfois les diplomates. Permettez-moi une question complémentaire, Michel. Vous pensez qu'il y a un biais et une volonté de la part des trois radios que vous avez citées de faire du mal à François Fillon?
Des radios publiques en général.
Et des
radios publiques et de la télévision publique également.
Et de la télévision publique.
Clair. Quand on écoute C'est à vous, c'est dans l'air. L'émission qui est diffusée le soir et rediffusée à 10h30, à 22h30 le soir, c'est criant.
Restez en ligne, Michel, parce que cette question est importante et elle nous revient souvent. Sarah Guibaudot, pour commencer.
C'est un reproche. Honnêtement, si vous écoutiez les radios privées, je pense que vous verriez qu'elles en ont fait autant sur l'affaire Fillon. On a déjà abordé ce sujet. C'est que l'affaire Fillon, qui est arrivée dans un temps très proche de la présidentielle, avec un rythme de révélation soutenu, c'est devenu un vrai feuilleton. Et du coup, ça a pris beaucoup de place dans l'actualité. Toutes les affaires, et il y en a beaucoup, et on en a parlé ici sur France Inter, qui concernent le Front National, ça s'étale depuis trois ans, donc il y a eu moins ce phénomène de feuilleton. Il y avait aussi, c'est vrai, c'est un de ces arguments, mais il n'y avait pas de soupçon d'enrichissement personnel sur Marine Le Pen concernant la campagne de 2012, par exemple, même s'il y a des forts soupçons d'enrichissement personnel sur certains de ses proches, comme Frédéric Chatillon. Donc tout ça a contribué à faire que voilà, le projecteur a été braqué sur François Fillon là pendant cette campagne. Bon, France Inter vous a révélé il y a 15 jours qu'il y avait quand même une enquête ouverte sur une soirée à Las Vegas en présence de l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, même si, évidemment, on vous a expliqué aussi qu'il n'était pas directement visé. Donc pour moi, il n'y a pas de différence de traitement. Même si voilà, la temporalité de l'affaire Fillon fait que c'est devenu un vrai feuilleton et que oui, les projecteurs sont braqués sur cette affaire-là depuis quelques semaines.
Jean-Marc Four, directeur de la rédaction, vous répond, Michel.
Alors, il y a typiquement le froid et le ressenti du froid. Je crois que ce que exprime Michel est un ressenti du froid qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs, d'internautes, de téléspectateurs, etc., qui ont ce ressenti qu'il y aurait dans les médias aujourd'hui une forme d'acharnement contre François Fillon. Je crois que ce ressenti est réel. Je pense que le froid n'est pas le ressenti du froid. Et qu'effectivement, ce que vient d'expliquer Sarah est exact. C'est-à-dire que non, nous, on a vraiment, je vous assure en toute honnêteté, le sentiment de faire notre travail, ni plus ni moins. Et pour ce qui est de France Inter en particulier, je vais vous donner deux éléments de réponse. Un premier, Sarah Guibaudot l'a esquissé. Il se trouve que les quelques informations un peu, on va dire, sujettes à controverse qui sont sorties sur Emmanuel Macron, elles sont sorties sur France Inter. Voilà, c'est un fait. Voilà, l'autre fait, c'est dans le livre de Marion Lourd, donc sur les dépenses quand Emmanuel Macron était à Bercy. Donc c'est sorti sur France Inter. Voilà, c'est un élément factuel. Puis un deuxième élément, d'une autre nature de réponse, c'est la question du temps d'antenne consacré à François Fillon. Parce que ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus. C'est pas du tout. Les chiffres sont disponibles sur le site du CSA. C'est pas du tout sur France Inter que le plus grand temps d'antenne a été consacré à François Fillon en proportion. Hein, j'entends, c'est-à-dire que nous, 25% de notre temps d'antenne politique du mois et demi écoulé a été consacré à François Fillon. Sur BFM, c'est 33%. Sur RMC, 29%. Sur Europe 1, 33%.
Frédéric Mettezo, et puis on va demander à Michel ce qu'il pense des éléments de réponse qu'on lui a apportés.
J'ajouterais qu'on n'a pas parlé de François Fillon seulement par le prisme des affaires. On continue à dérouler son programme, on s'est rendu à des conférences de presse thématiques, on s'est rendu au Doc d'Aubervilliers où il avait présenté son projet pour la société civile aux côtés de Pierre Danon. Mais je voudrais aussi dire que c'est pas toujours facile de faire intervenir la défense de François Fillon. J'ai voulu faire des reportages, envoyer des reporters
du service politique de France Inter au QG de François Fillon pour voir des militants, vous savez, ces petites mains qui travaillent pour le candidat. Nous n'avons pas eu tout simplement l'autorisation de venir. On n'a pas eu la possibilité de faire des reportages. Parfois, je parle des interlocuteurs politiques, c'est difficile de faire réagir ceux qu'on appelle les lieutenants de François Fillon. Donc effectivement, on ne va pas s'empêcher de donner une information qui peut être difficile à entendre et à vivre pour le candidat ou pour ses soutiens politiques, mais on va pas s'empêcher de donner ces infos parce que les amis politiques de François Fillon ne veulent pas réagir.
Sarah, oui, au niveau judiciaire, en matière de défense, il y a pas de souci. On a des contacts réguliers avec les avocats de François Fillon et on leur a donné la parole quand ils ont soulevé leurs arguments.
Alors Michel, vous restez sur votre position ou le fait que...
Écoutez, j'entends bien ce que vous dites. Vous faites un métier difficile. Les journalistes font des métiers difficiles.
Non, c'est pas exactement ça. C'était un petit peu plus nuancé. Reconnaissez-le, Michel.
Oui, tout à fait.
Mais alors, dites-nous pourquoi vous
monopoliser la parole. Il me semble véritablement, malgré tout, que Monsieur Fillon fait l'objet d'un traitement très 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 particulier. Et ça, je crois que c'est vraiment une nouveauté. Vous savez quoi? Ça me fait penser à la radio et à la télévision telle qu'elle était avant 68.
Carrément.
Ah oui, carrément. Vraiment. Et je suis pas seul à le penser, je vous l'assure.
Bon, je vous passe Jean-Marc Four, restez en ligne, hein, c'est le directeur de la rédaction. Restez en ligne, Michel.
Non, ce qui est frappant, c'est que chacun voit un peu midi à sa porte. Et c'est assez fréquent pendant les campagnes présidentielles, en réalité, en France. Nous, on reçoit évidemment énormément de courriers de gens très, très fidèles de l'antenne. Et les partisans de Marine Le Pen trouvent qu'on s'acharne sur Marine Le Pen et qu'on lui accorde pas suffisamment de temps de parole. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon trouvent qu'on lui accorde pas suffisamment de temps de parole. 12% du temps de parole sur France Inter pour Jean-Luc Mélenchon depuis un mois et demi, juste pour avoir une idée. Donc, je crois qu'on est à peu près dans le monde réel. Les partisans de Benoît Hamon nous ont critiqués pour avoir pris le point de vue de Manuel Valls pendant la primaire. Les partisans de Manuel Valls disaient qu'on défendait Benoît Hamon, etc., etc. Et quand on critique Emmanuel Macron, les partisans d'Emmanuel Macron ne se privent pas de dire c'est scandaleux les points controverses qu'on soulève sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, chacun voit aussi un peu midi à sa porte.
Voilà Michel, en espérant que vous nous écouterez peut-être d'une autre oreille. Je salue Géraud.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Bon, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors moi, j'avais l'impression que les journalistes, oui, en font trop. Que Canard Enchaîné avait surfé un peu sur la vague en distillant des informations, à la fois pour faire de l'audience et quand même certainement un peu de chiffre d'affaires. Ensuite, il me semblait que la justice, comme citoyen, il me semblait que parfois trahissait le secret d'instruction, parce qu'on a l'impression qu'on a des informations qui pourraient être, on va dire, confidentielles. Après, j'ai vraiment l'impression qu'on confisque le débat depuis le 26 janvier, puisque finalement, l'avenir de la France, est le plus gros sujet, c'est le travail en France, et bien on n'a pas vraiment le contenu, et que malgré ce qui s'est dit tout à l'heure, le déroulé des programmes des uns et des autres est un peu masqué par ces affaires. C'est vraiment dommageable. Et après, est-ce qu'un politique qui a profité du système, comme chacun aurait pu le profiter peut-être, s'il avait été en politique, moi j'en suis pas, est-ce qu'à un moment donné, il est pour autant incapable d'avoir des vrais projets pour l'avenir, tout en reconnaissant ce qu'il a fait après. Et après, moi j'ai l'impression que parfois, on dit que les journalistes sont un peu supérieurs à cette morale. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne profitent pas un peu du système sur certains plans sans le dévoiler? Et enfin, donc je voudrais dire que moi, en témoignage personnel, j'ai travaillé dans un grand groupe américain qui s'appelle Dupont, et qui, quand on rentre dans ce groupe, au bout de quelques mois, on fait une journée de formation sur l'éthique, les droits et devoirs du salarié. Est-ce que demain, on ne pourrait pas l'avoir pour le journaliste qui rentre, le politique, et qui dit « ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire », et c'est écrit, et je signe une charte, et je m'engage à ça. Voilà.
Merci Géraud pour cette question. Permettez-moi juste un mot. Est-ce que vous auriez préféré qu'on en parle moins de l'affaire Fillon, qu'on n'en parle pas? Est-ce que vous pensez qu'elle a...
Il semble qu'on aurait pu en parler moins, parce qu'effectivement, avoir de l'information, c'est important de dire « il se passe ça, ça et ça ». Mais finalement, comme dans une campagne, on a plus envie de dire celui-là, il a fait des erreurs, donc il va peut-être les payer cash. Mais qu'est-ce qu'il a amené dans la campagne par rapport aux autres programmes? Et je crois qu'on en a effectivement, on a masqué la comparaison des programmes. On a l'impression que la campagne n'a commencé que lundi soir. C'est quand même assez à 30 jours des élections. Donc on est les gens sont frustrés, voire désabusés, voire dire je vais voter blanc parce que finalement on nous parle jamais des sujets qui nous préoccupent tous les jours, l'emploi, le chômage, un peu l'insécurité, un peu l'avenir de la France, l'Europe, tout ça. On a l'impression que c'est complètement, d'une certaine façon, occulté par ça. Alors les médias, est-ce qu'ils profitent pas un peu de faire de l'audience? Alors il y a peut-être aussi une course à l'audience. Il y a, quand on fait cache investigation, il y a un peu rechercher un peu une forme de polémique dans les sujets qu'on fait, comme ça derrière. Moi je fais plus d'audience que Paul, que Jacques, que France Inter, que Europe 1, et du coup je capitalise. Donc l'information, c'est pas que faire de l'audience, quoi. Voilà, c'est, donc du coup je pense que ces affaires-là, on fait faire de l'audience.
Merci Géraud pour l'ensemble de ces questions. On va essayer de les prendre dans le désordre, mais d'y répondre. Sur le secret de l'instruction, peut-être, Sarah Guibaudeau.
Bon, mais c'est évident qu'on ne va pas attendre que François Fillon ou d'autres soient définitivement jugés pour parler de ce qui leur est reproché. C'est franchement, je pense que les auditeurs nous le reprocheraient aussi. C'est absolument impossible. Donc, alors, il y a un cadre légal quand même par lequel passe l'information. La justice peut donner, le parquet en l'occurrence, un certain nombre d'informations à certaines étapes, voilà, il est mis en examen pour telle ou telle qualification. Enfin, voilà, ça c'est quand même assez normal. Après, des fuites, il y en aura toujours. Nous, on n'est pas soumis au secret de l'instruction. C'est vrai qu'il y a un secret professionnel qui est violé régulièrement. C'est pas que la justice, honnêtement, si j'ai des confrères qui arrivent à soutirer des informations au juge tourneur, je leur dis bravo, mais je pense que c'est assez peu probable. Donc voilà, toutes les parties qui sont à l'enquête, voilà, soit les enquêteurs eux-mêmes, soit les avocats des mises en examen, certains. Bon, voilà, je pense que
ça
c'est
fuite de partout.
Ça fuite. Je pense qu'il faut quand même effectivement respecter une certaine éthique aussi vis-à-vis de ça. Nous, on se fixe des limites. Alors, ça c'est pas présenté là, mais parfois on a accès à des informations confidentielles. Donc voilà, on protège quand même la vie privée parce qu'on peut avoir accès à tout un tas de choses dans une enquête. Faut pas non plus mettre les investigations en danger. La question se pose plus sur les affaires terroristes, mais voilà, voilà, on a aussi cette grille là, nous, par rapport à ce qu'on donne, ce qu'on donne pas. On n'est pas que dans la recherche du sensationnel et de l'audience.
Sur l'aspect feuilleton, c'est un point important. Feuilleton audience, feuilleton vente.
C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il a existé des cas de figure où la presse a délibérément feuilleutonné. C'est-à-dire que un média possède l'intégralité de l'histoire et ne va dévoiler que progressivement les différents éléments en sa possession pour pouvoir feuilleutonner. Bon. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas dans l'affaire Fillon. Ce qui se passe, c'est que l'histoire est évolutive puisque, d'ailleurs, François Fillon crée lui-même les éléments du feuilleton, puisqu'il dit si je suis mis en examen, je me retirerai. Donc,
j'ai employé mes enfants,
etc. Enfin, voilà, il dit lui-même j'ai employé mes enfants. Du coup, on se met à chercher sur quelle est la nature des emplois des enfants, etc.
Ils étaient avocats, ce qui n'était pas le cas.
Et quant au réquisitoire supplétif qui vient de tomber sur faux usage de faux, c'est la suite de perquisitions qui viennent d'être effectuées à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'est l'histoire. La presse ne possède pas l'intégralité de l'histoire dès le début. Le feuilleton vit de lui-même. Hein, ça, c'est un cas un petit peu particulier. Puis autre chose. Quand même, il faut réagir un petit peu quand même sur le. Là aussi, froid et ressenti du froid. Sur du coup, on aurait oublié les programmes et le fond. Je peux pas totalement laisser dire ça. Enfin, je pense que France Inter, mais pas seulement France Inter, plein de médias s'attachent à expliquer les programmes. Sur Inter, on a plusieurs rendez-vous sur l'antenne. Franck-Éric Métezo, ici présent, ici même, tous les matins dans 8h, décortique les propositions des différents candidats sur toute une série de programmes. Et tous les soirs, dans le 19h, nos spécialistes de la rédaction décortiquent les programmes des candidats. Donc, on peut pas non plus tout à fait laisser faire ça. Je pense que là aussi, il y a froid et ressenti du froid.
Frédéric ?
Oui, pour l'autre partie de la question de notre interlocuteur, une des parties évoquées, c'était la question de la déontologie. Nous, journalistes, ne sommes pas au-dessus des lois. On est aussi soumis à un certain nombre, d'abord, de règles déontologiques. Il y a des chartes déontologiques qui sont adoptées, soit au niveau syndical, parfois de façon internationale, soit entreprise par entreprise. Ensuite, on peut pas dire n'importe quoi. On est soumis aussi à un certain nombre de lois, notamment le respect de la vie privée. On peut être condamné pour diffamation. Notre média peut être condamné ou un média de presse écrite peut être condamné à publier des droits de réponse obligatoires, un encart pour répondre à un article. Donc oui, il y a la protection et il y a le secret des sources qui nous permettent de travailler sereinement et surtout de protéger ces sources, mais on n'est pas du tout hors cadre et tant mieux d'ailleurs.
Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. Mille excuses pour la demi-heure d'attente. J'espère qu'elle ne vous a pas mis dans un état d'esprit, comment dire, agressif à notre égard.
Ah non, mais je suis très calme. Moi, vous savez, à 84 ans, on commence à l'être.
Ah, super. Ça s'appelle la philosophie. Alors, allez-y, oui, Henri, on vous écoute.
Donc, d'ailleurs, je vote depuis 1955 et j'ai jamais vu une campagne électorale de cette façon, vraiment. Bon, je dis pas que je suis écœuré, mais vraiment, ce grenouillage m'incite quand même à ne pas comprendre ce qui se passe. Bon, alors ceci dit, ma question surtout, c'était par rapport aux affaires donc que M. Sarkozy entraîne. Et là, on n'en parle pas et ça efface toutes ces problèmes de ces enquêtes que donc M. Sarkozy et avec Big Malion, avec ceci et cela, est en cours. Et donc, pourquoi c'est complètement effacé dans le paysage actuel.
On va vous expliquer. Une affaire chasse l'autre. Merci Henri pour votre intervention, votre question. Sarah Guibaudot, quand on a plusieurs fers au feu, comme
non,
ça,
non, mais
plusieurs
c'est vrai qu'une
affaires,
affaire chasse
on fait
l'autre, c'est évident. Néanmoins, moi j'ai fait des papiers récemment sur le fait que Nicolas Sarkozy était renvoyé en correctionnel pour l'affaire Big Malion. Alors, comme il a fait appel, le procès, c'est pas pour demain. Mais voilà, on continue de suivre toutes les affaires. Après, il y a une question de place. Hein, vous savez, nous aussi, on doit se battre pour que notre sujet passe dans la matinale de France Inter. C'est un débat quotidien à la rédaction. Il y a tellement d'actualités, tellement de sujets à couvrir, et pas que dans le domaine judiciaire, que oui, bah, parfois, il y a des choix qui sont faits. Mais sur Big Malion, par exemple, et Nicolas Sarkozy, on vous en a parlé récemment.
Frédéric Mettezo.
Je ne sais pas si statistiquement, numériquement, il y a plus d'affaires aujourd'hui. En revanche, il y a plus de médias, il y a les réseaux sociaux et il y a les médias d'information continue. Donc avant, pour faire simple, bah, on avait une information qui était donnée le matin dans les grandes radios, dans un journal à la mi-journée à 13h, dans la presse écrite et le soir aux 20h. Et puis entre les deux, et bah, il y avait une espèce de pause, de calme. Là, aujourd'hui, tout le monde peut s'informer à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un effet démultiplicateur qui est réel. Numériquement, effectivement, je ne sais pas s'il y a plus d'affaires, mais puisqu'Henri a 84 ans, c'est lui qui le dit.
J'ai il n'a aussi jamais vu ça, nous a dit Henri.
Oui, ben pourtant, il y a eu les balais roses, il y a eu l'affaire Markovitch, il y a eu l'affaire Boulin, il y a eu les avions renifleurs, il y a eu Urba.
La 5e République, c'est ça aussi. Deux candidats mis en examen,
ça effectivement, c'est, ça c'est nouveau.
Bienvenue dans le 21e siècle. Jean-Marc, un mot sur ce que nous disait Henri.
Non, mais encore une fois, on est à un mois du scrutin présidentiel. C'est logique que l'on se focalise sur les candidats en lice et sur le fait de savoir s'ils sont intègres ou pas. C'est le moment, c'est ce que disait Frédéric Mettezo tout à l'heure. Si on ne le fait pas maintenant, après, il sera trop tard.
J'ai oublié un aspect de la question de Géraud tout à l'heure, qui accusait, en tout cas qui remarquait, disait-il, de son point de vue, que les antennes de Radio France étaient des antennes orientées contre François Fillon, mais pour Emmanuel Macron. Alors ça, on l'entend aussi beaucoup. Emmanuel Macron, candidat des médias, c'est un thème d'éditorial et de tweet absolument infini. Géraud nous posait cette question-là aussi, hein, deux poids, deux mesures, critique pour l'un, soutien pour l'autre. Que peut-on lui répondre, Jean-Marc Four?
Je crois qu'il y a des éléments, un peu objectifs qui expliquent l'intérêt qu'a suscité Emmanuel Macron dans les médias. C'est-à-dire que ça, je parle de l'année écoulée globalement. Le personnage est nouveau, donc ce qui est nouveau intéresse toujours les médias. Il est jeune et surprenant, ça intéresse les médias. Il est un peu inclassable, enfin en tout cas il n'est pas positionné classiquement sur l'échiquier politique, donc forcément ça intéresse les médias. Après, est-ce que les médias seraient macronistes? Écoutez, chacun est libre de le penser. Je ne sais pas à quoi ça peut se juger, ça, en fait. Si on se fie au volume, en tout cas, je vais vous ressortir les chiffres du CSA, mais là encore, les médias audiovisuels, ils ont consacré, selon les médias, entre 15 et 23% de leur temps d'antenne, c'est ça, à Emmanuel Macron depuis un mois et demi. Inter, c'est à 19 pour vous donner les chiffres. Je comprends le ressenti, là encore. Après, la réalité de ça me semble moins évidente, en fait.
Bon, on va donner la parole à Claude de Nice.
Oui, merci, bonsoir.
Vous êtes là ?
Oui, bien sûr, je suis là.
Bon, on vous écoute.
Oui, alors moi, je suis ravi. Je suis ravi de France Inter, de France Culture, du Monde et du Canard Enchaîné. Parce que, grâce à vous, j'ai enfin une toute petite opinion sur les hommes politiques. Je suis ravi de la pugnacité que vous avez sur ces affaires-là.
Et alors, Bruno Leroux, hier.
Ah, c'était parfait. C'est parfait. Moi, j'aime comprendre. Et là, j'ai enfin compris un peu comment ça se passait dans la classe politique.
Bah, écoutez, merci Claude pour vos remerciements. La parole à Jean-Marc Four.
Non, mais je fais une association d'idées sur Bruno Leroux et sur ce que disait un autre auditeur, une autre auditrice tout à l'heure sur le fait qu'il faut que France Inter s'y mette aussi. Bah, typiquement Bruno Leroux, c'est France Inter qui hier en premier dit le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire sur Bruno Leroux. Après, on connaît la suite des événements, mais je veux dire, on y est aussi, hein, voilà. Et croyez bien que on s'intéresse absolument à tous les partis et à tous les candidats et que on n'a pas de hier particulière sur l'un ou sur l'autre.
Qui est au standard, Alfred?
Ah oui.
Eh ben c'est vous. Allez-y, Alfred.
Oui. Mais ça tombe bien.
Bon, voilà. On vous écoute.
Il y a tellement d'événements depuis que j'écoute là que j'ai oublié ma question.
Allez-y, on peut papoter hein, en même temps.
Non, mais presque ça. C'est-à-dire que les événements vont tellement vite, il y a tellement de choses, il y a tellement de... Alors, vis-à-vis de quand même, j'ai du vécu un peu, ça fait longtemps que je parle de politique, etc., et j'en ai fait même un petit peu, mais il y a beaucoup de choses, ça va très vite, hein, mais les Français, je crois qu'ils comprennent plus, quoi. Pour répondre un peu à l'auditeur qui était là tout à l'heure, quand
faites-le
même,
vite,
en disant,
Alfred.
Monsieur Fillon, quand même, heureusement que vous énoncez les choses comme ça, hein. Et bon, je me demande même pourquoi il est encore là, quand même. C'est me semble.
Ouais,
on est la risée de toute l'Europe. Quand
c'est
même,
il faut que vous lui demandiez à lui, Alfred. Je suis obligé, Alfred. Mille excuses de vous couper la parole parce que on arrive au terme de ce téléphone sonne. Merci à tous d'y avoir participé. Sarah Guibaudot, Frédéric Mettezo, Jean-Marc Four et vous, amis auditeurs d'Inter, on pourra refaire. Hein, ça, c'est intéressant quand même de pouvoir dialoguer sur la manière dont on traite la politique et la campagne. Le journal est à suivre.